Alors, je vous propose ce soir, donc il était marqué sur le programme la transfiguration. Au point de départ, quand on a envisagé avec Philippe le programme de cette année, donc nos différentes fêtes, j'avais pensé à la transfiguration. C'était difficile, c'était une ultime solution, comme parallèle ou écho, voilà, écho au rendez-vous d'automne. Enfin, plus exactement, à la fête des tentes qui fait partie des rendez-vous d'automne. Pour une raison toute simple, hein, c'est parce qu'il y a un petit détail dans la transfiguration, dans le récit de la transfiguration dans l'évangile. Ce sont les tentes que Pierre, qui est présent à la transfiguration, propose d'édifier pour Jésus, mais également Moïse et Élie qui sont apparus en gloire et qui s'entretiennent avec Jésus. Bon, l'évangile d'ailleurs, petit détail qu'il faut pas nécessairement survaloriser puisque l'évangile ajoute, il ne savait pas ce qu'il disait. Voilà. Mais en même temps, c'est quelque chose d'intéressant. Dans l'évangile, par exemple, vous avez une séquence assez ferme entre, d'une part, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. La confession de foi de Pierre, ça veut dire la réponse qu'il donne à la question que Jésus lui pose à tous ses disciples, enfin aux apôtres en particulier. Pour vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Les gens disent des tas de choses, hein, sur Jésus. Principalement, il souligne son activité, sa dimension prophétique. Voilà. Mais Jésus va se tourner ensuite vers ses disciples, ses apôtres, et en leur disant, que dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Christ. Voilà. Donc la confession de foi de Pierre a lieu à Césarée de Philippe, qui est au nord du pays. Et on nous dit 6 jours après la transfiguration. Et ça, c'est vous voyez qu'il y a une séquence qui est assez ferme et qu'on retrouve en particulier dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, trois évangiles que l'on peut suivre en parallèle. Vous voyez, si on faisait des colonnes pour lire l'évangile, on pourrait quasiment suivre, enfin, on peut suivre, vous voyez, Matthieu, Marc et Luc en parallèle, Jean ayant une organisation un peu différente et montrant une culture, vous voyez, assez différente de celle des synoptiques. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que l'évangile de Matthieu, qui est aussi pour les chrétiens l'évangile privilégié cette année. Hein, on fonctionne sur un cycle liturgique de 3 ans et on suit chaque année un évangile synoptique. Matthieu, Marc ou Luc, cette année c'est Matthieu. On réserve Jean à certains moments particuliers, en particulier la Passion, enfin, le temps de la Passion, la Semaine Sainte et le temps le temps pascal. Dans l'évangile de Matthieu, cette séquence, Matthieu a placé cette séquence de la confession de foi de Pierre et de la Transfiguration dans le cadre des fêtes juives d'automne. Voilà. Lisant, interprétant la confession de foi de Pierre sur fond de Yom Kippour. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, l'interprétation qui est donnée ou la perspective qui est donnée, c'est celle de la proclamation du nom par le grand prêtre qui avait lieu le jour du Yom Kippour. Faisant de la déclaration de Pierre, qui est d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu complète du point de vue chrétien, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme une espèce de déclaration, vous voyez, analogue à celle du grand prêtre dans le temple, vous voyez, du nom de Dieu, du nom de Jésus en tout cas. Et la réponse que Jésus fait à Pierre, qui est propre à Matthieu, vous voyez, souligne la relation qu'il y a entre la confession de foi de Pierre et le Yom Kippour. Hein, tu es béni, Simon, heureux es-tu, Simon, fils de Yona, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous avez un certain nombre d'expressions qui sont caractéristiques du Yom Kippour, qui se retrouvent, vous voyez, dans la déclaration que Jésus fait à Pierre après que celui-ci l'ait désigné comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et du coup, l'intervalle d'ailleurs que choisit Matthieu de mettre, que Matthieu choisit de mettre entre la confession de foi de Pierre et la transfiguration, et l'intervalle qu'il y a entre le Yom Kippour et la fête des tentes, Matthieu ne parle pas de 6 jours après, comme Marc par exemple, il donne 8 jours après, ce qui est l'intervalle entre les deux fêtes, et oblige d'une certaine manière le lecteur de l'évangile de Matthieu à lire la transfiguration sur fond de la fête des tentes. Et donc c'est pourquoi j'avais choisi la transfiguration comme analogue ou comme écho à ce que Philippe aurait dit de la fête des tentes. Mais comme Philippe n'a pas choisi la fête des tentes, je vous ai fait une introduction pour rien du tout. Voilà. Donc on passe au sujet de ce soir, qui est le carême et la semaine sainte. Pourquoi le carême et la semaine sainte? Tout simplement parce que Philippe a privilégié donc Rosh Hashanah et Kippour, et nous a dit en particulier, où il a présenté ces deux grandes fêtes comme les deux grands moments de la vie juive, ces deux grands moments de la vie juive comme le grand rendez-vous annuel en vue d'un bilan moral et spirituel. Voilà. Et c'est un des sens du carême et de la semaine sainte, enfin du carême en particulier. Et le jeûne qui est caractéristique du Kippour est aussi une caractéristique du carême. C'est pourquoi donc je vous propose de traiter ce thème, ce du carême et de la semaine sainte ce soir. Alors, je vais redire des choses que les chrétiens, dont les chrétiens sont familiers, donc en un sens, ils vont pas apprendre grand chose, hein. Carême vient du latin, quadragésima, yes. Voilà, le 40e jour. Il s'agit du 40e jour avant Pâques, qui célèbre pour les chrétiens la résurrection du Christ. Autrement dit, ou des 40 jours plutôt que le 40e jour avant Pâques, parce qu'en réalité, le carême dure un peu plus que 40 jours. Autrement dit, le carême est un temps de préparation à ce mystère. Le mystère de Pâques, pour nous, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, ou plus exactement, le mystère du passage, voilà, de la mort à la résurrection. Comme tel, le carême nous resitue avant ce passage, dans la considération, voyez, plus résolue de la passion et de la mort de Jésus. C'est ce qui précède la résurrection. On rattache ces 40 jours aux 40 jours que Jésus a vécu dans le désert, avant de commencer sa mission. C'est d'ailleurs l'évangile du premier dimanche de carême, toujours, quelle que soit l'année liturgique, c'est toujours le premier dimanche de l'évangile du premier dimanche de carême. Certes, sa mission va durer 3 ans, hein, entre les 40 jours qui passent au désert et la mort et la résurrection, il y a 3 ans qui s'écoulent. Mais au fond, sa mission se résume dans ce passage. Et ces 3 ans servent en réalité, vous voyez, à entraîner à sa suite des disciples. Pour signifier, si vous voulez, que ce passage, la mort et la résurrection, c'est pas un passage que Jésus veut opérer pour lui seul, mais entraîner à sa suite, précisément tous ceux qui le suivent. En réalité, ces 40 jours vont mettre un peu de temps à s'imposer. Ils sont observés à la fin du 4e siècle. C'est un siècle, vous savez, le 4e siècle, c'est le siècle où le christianisme va être reconnu, en tout cas dans l'Empire romain, comme une religion licite, et même comme la religion de l'Empire, à la fin du 4e siècle avec Théodose. Voilà. Avant, le christianisme fait partie des religions pratiquées dans l'Empire, pas toujours persécutées, et quand cette religion est persécutée, c'est pas toujours dans tout l'Empire, voilà, hein. Même s'il y a des grands moments de persécution, soyons clairs. Donc c'est au 4e siècle, à la fin du 4e siècle, on en a une attestation en particulier dans le concile de Nicée, le premier concile œcuménique, que les 40 jours sont mis en place. Leur durée pourra varier. Par exemple, dans les siècles suivants, les 3 siècles suivants, elle a tendance à s'allonger. Ce qui va être déterminant, vous voyez, dans l'idée de fixer à 40 jours le temps du carême, c'est l'idée d'une préparation au mystère de Pâques. Voilà. La préparation au mystère de Pâques. Un élément qui est essentiel, c'est le jeûne. Voilà. Le jeûne préalable à la célébration de la Passion apparaît au second siècle, à la deuxième moitié du second siècle, c'est-à-dire avec un grand homme d'église qui s'appelle Irénée et qu'on appelle Saint Irénée. On peut le rattacher à un passage de l'Évangile. Vous savez, c'est le moment où j'aurai l'occasion d'en parler. C'est un moment où on interroge Jésus sur le fait que ses disciples ne pratiquent pas le jeûne. Voilà. Et Jésus, j'aurai l'occasion d'en parler précisément, va non seulement prendre distance par rapport à la pratique du jeûne dans le monde juif, dans le monde juif. C'est pas tout à fait exact puisque nous sommes dans le monde juif, la pratique juive du jeûne, mais pour autant ne pas invalider le jeûne, mais le rattacher à sa mort. On va avoir l'occasion d'en parler. Le jeûne est une pratique, enfin, Philippe me corrigera si je me trompe, est une pratique qui est liée à Kippour, mais qui peut prendre place aussi lorsqu'un événement dramatique survient, par exemple la mort d'un proche, ou simplement dans un souci religieux. Par exemple, vous avez dans l'Évangile un passage qu'on appelle la parabole du pharisien et du publicain, plus connue par les enfants comme la parabole du parisien et du républicain, où le parisien dit « je jeûne 2 fois la semaine ». Voilà, hein, dans un souci précisément de, on va dire, religieux, de qualité religieuse. Donc le jeûne est une coutume juive. Donc l'Évangile nous dit aussi que Jésus a pris ses distances par rapport à cette pratique du jeûne. Donc c'est ce que je vous citais à l'instant. Hein, on l'interroge pour lui demander pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean, que Jésus a admiré et sans doute suivi, jeûnent. Jésus répond, les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est là? Hein, vous trouvez ça en Marc 2, au chapitre 2 de saint Marc, au chapitre 9 de Matthieu, ou même en Luc, hein, au chapitre 5. Voilà. Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est là? Cette parabole renvoie, c'est-à-dire le fait que Jésus s'exprime, voyez, de manière imagée, les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner? C'est une drôle de réponse que l'on adresse à une question aussi directe que pourquoi ils ne jeûnent pas? Voilà. Cette parabole renvoie à la mission de Jésus qui comprend comme celle de sceller une alliance nouvelle, pour reprendre l'expression du prophète Jérémie, que vous avez au chapitre 31 de Jérémie, ou de renouveler l'alliance, l'alliance pouvant être figurée par des épousailles. Hein. Elle signifie, ces épousailles, l'intimité de Dieu et d'Israël, et la fidélité à laquelle Israël est invité. Nouvelle alliance, non pas au sens où Jésus prend la place de Dieu et la communauté des disciples de Jésus, celle d'Israël. Pour les chrétiens, c'est Dieu qui renouvelle en Jésus son alliance, et les disciples de Jésus sont d'abord des Israélites. Mais au sens où cette fidélité à laquelle Dieu appelle Israël a besoin d'être renouvelée, voire d'être créée à neuf. Pour revenir à la pratique du jeûne, elle est donc suspendue par Jésus, mais elle retrouve son actualité. Dès lors que l'époux, Jésus ajoute, ils jeûneront lorsque l'époux leur sera enlevé. Littéralement, c'est arraché. C'est un verbe qui est assez brutal, hein, apairo, un terme qui renvoie à la passion et à la mort. Et donc, désormais, le jeûne, pour les chrétiens, sera lié à la mort de Jésus. Alors, je dis sera lié. En réalité, vous savez, les premières décennies, le premier siècle de notre ère, les pratiques chrétiennes, en tout cas celles des disciples de Jésus qui sont en Terre Sainte, en terre d'Israël, sont analogues aux pratiques juives. Ils continuent d'observer le Shabbat. Le Shabbat, d'ailleurs, va être pratiqué très longuement, hein, jusqu'au IVe siècle de notre ère, et même on trouve des traces de pratiques par des communautés chrétiennes du Shabbat jusqu'au XIIe siècle de notre ère, voyez, sans que ce soit incompatible avec la pratique chrétienne. De la même manière, ils vont monter au temple pour les prières. Ça, c'est vraiment l'univers, vous voyez, chrétien du premier siècle de notre ère. Donc, au deuxième siècle, je reviens à mon texte, hein, au deuxième siècle, dans la deuxième moitié du deuxième siècle, on commence à observer un jeûne d'un jour ou deux pour se préparer au mystère de la passion, à la célébration du mystère de la passion. Un jour ou deux, c'est ce qui est raisonnable du point de vue des capacités humaines. Jeûner 40 jours, 40 nuits, quand c'est sans manger, il faut être sinon un surhomme, ou alors voir dans cette expression un genre littéraire, voyez, pour exprimer la radicalité, voyez, de la tentation dans laquelle Jésus est plongé. L'allongement de cette durée va fondamentalement procéder d'un équilibre avec la durée du temps pascal. Et c'est au IIIe siècle qu'on observe ça. Le temps pascal, ça veut dire le temps qui va de Pâques à Pentecôte, 50 jours. Pâques, pour nous, pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint, voilà, qui permet d'avoir cette capacité, par exemple, à lire l'Écriture et à la voir dans la perspective de Jésus. On fait comme Jésus invite les disciples d'Emmaüs à faire, c'est-à-dire à relire toute l'Écriture dans la perspective du Christ, ou plus exactement, pour y déceler un fil rouge, c'est-à-dire il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire. Donc au IIIe siècle, non seulement le temps pascal se met en place, mais du coup il paraît normal qu'une préparation d'une durée équivalente vienne en quelque sorte comme équilibrer, voyez, ce temps pascal. Vous avez une préparation préalable au mystère de la Passion et de la Résurrection, à la célébration de la Passion et de la Résurrection, et puis vous avez 50 jours ensuite pour fêter, voilà, hein, pour fêter la joie de Pâques. C'est là qu'on peut faire référence aux 40 jours au désert. Le carême dure, en réalité, a duré plus de 40 jours, selon les jours de la semaine où on suspend le jeûne. Le dimanche, par exemple, est toujours, pour les chrétiens, un jour où on célèbre la résurrection du Christ. Et donc, du coup, un peu comme je le citais à propos de l'Évangile, il n'y a pas de jeûne. Hein, l'époux est là et les compagnons de l'époux se réjouissent de sa présence. Voilà. Aujourd'hui, il dure environ 6 semaines, du mercredi 10 décembre. Alors, je précise, cendre, voilà, le terme cendre, parce que l'autre jour, j'étais au catéchisme avec les enfants, et je dis, mercredi des cendres, ils avaient compris qu'il fallait, vous voyez, s'abaisser, ce qui est pas mal, j'aurais dit, c'est très bien, c'est tout à fait cela, c'est le sens des cendres, c'est-à-dire, on descend jusqu'à la poussière, ou à ce qui reste d'un feu, d'un bois, lorsqu'il a brûlé, voilà, pour ensuite, bien sûr, c'est donc un parcours, vous voyez, de la mort à la vie. Donc il dure environ 6 semaines, du mercredi 10 décembre au jeudi saint. Quand on parle de jeûne, à strictement parler, cela ne concerne que le premier jour du carême et les vendredis de carême, ainsi que le vendredi saint où l'on célèbre la passion de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être pratiqué à d'autres moments du carême, notamment en un sens spirituel, ce que Philippe avait évoqué la fois dernière, en se référant en particulier à Isaïe, au prophète Isaïe, au chapitre 58. Hein, le jeûne que Dieu préfère, c'est en particulier délier les chaînes des prisonniers, etc. Voilà. Et de fait, sans cette pratique, sans ce sens spirituel, la pratique du jeûne n'a pas beaucoup d'importance pour les chrétiens. Par exemple, dans les jours qu'il y a entre le mercredi des cendres et le premier dimanche de Pâques, le premier dimanche de carême plutôt, on entend l'évangile que j'ai cité, c'est-à-dire pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean jeûnent. Voilà. Et la première lecture qui est faite, c'est toujours Isaïe 58. Hein, en accord avec cet évangile, c'est Isaïe 58. Hein, pour bien signifier que ça ne sert à rien de se priver de nourriture si à côté de ça on fait ses affaires. Voilà, on fait ses affaires, vous comprenez, vous voyez. Si la vie, toute la vie que l'on mène n'est pas en quelque sorte informée de l'intérieur par un retournement, une conversion du cœur. Alors quel est le sens fondamental du carême? Au début de sa conférence, Philippe a évoqué l'anthropologie sous-jacente à Rosh Hashanah et Kippour. Il s'est basé en particulier sur Genèse 1 et 2. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale dans la manière de lire ces deux chapitres entre un juif et un chrétien. Pour les chrétiens, Genèse 1 et 2 sont des textes donc fondamentaux pour définir ce qu'est l'homme, l'homme et la femme, à savoir des individus libres et responsables, seules créatures voulues pour elles-mêmes, d'égale dignité au regard du Créateur, une dignité tout à fait remarquable puisque Dieu les crée à son image comme à sa ressemblance. Et dans la rencontre, c'est-à-dire l'union, manifeste la vie comme la première caractéristique divine, Dieu est le vivant. Le carême renvoie plutôt à la suite, c'est-à-dire à Genèse 3, la transgression et la perte de l'intimité de Dieu, le premier péché qui, dans la tradition chrétienne, va être appelé le péché originel, en particulier à partir de Saint Paul et de la relecture qu'il en fait au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Quand on parle de péché originel, de quoi parle-t-on? On parle d'une altération de la nature humaine, présente désormais en tout être humain, présente dans tout être humain, on pourrait dire. Altération telle que la mort et son cortège de signes annonciateurs, comme la peine, la souffrance, la maladie, sont désormais le lot et la fin de l'humanité. Quand on parle de péché originel, on parle en fait de péché de manière analogique. Hein, ce n'est pas un péché personnel dont on aurait, péché personnel dont on aurait la responsabilité, mais une nature blessée, on dit même déchue au sens de perte de la sainteté et de la justice originelle. Donc une nature blessée qui facilite en nous la pratique du péché. C'est un état plutôt qu'un acte. Cela dit, tout péché commis ratifie en nous ce péché originel. Donc nous rend en quelque sorte aussi responsable ou capable de ce péché des origines. La tradition chrétienne, ce qui permet d'être guéri ou lavé du péché originel, c'est le baptême. Baptême, ça signifie plonger dans l'eau qui lave et donne la vie. C'est une pratique qui existait au tournant de notre ère, caractéristique d'une secte, ou plutôt d'un parti. On utilise secte comme, par exemple, enfin j'utilise secte là comme Flavius Joseph l'utilise, pour différencier les différents partis dans le monde juif qui existaient de son temps. Donc une pratique qui existait, celle des baptistes, dont Jean est le seul dont les chrétiens se souviennent, Jean le Baptiste. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est tout à la fois quelqu'un qui annonçait cette pratique en vue de la rémission des péchés, dont Dieu seul a la capacité, et qui a eu aussi l'intuition qu'il était envoyé par Dieu pour annoncer la venue prochaine précisément de Dieu pour la rémission des péchés. Le baptême chrétien, ce n'est pas le baptême de Jean. Le baptême chrétien, c'est le baptême de Jésus, c'est-à-dire un plongeon dans la mission de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, un plongeon dans son être même, si voilà, le mystère. Entre l'œuvre et la mission, il y a une forme d'identité, vous voyez, du point de vue chrétien, pour Jésus. Être, pour lui, c'est faire, ou faire, c'est être, voilà. Les chrétiens considèrent que par le baptême, ils sont hantés, c'est-à-dire incorporés, greffés, voilà, à Jésus, ayant fait déjà, même si c'est de manière mystérieuse, on préfère dire sacramentelle, dans l'idée des chrétiens, un sacrement, c'est un acte, un signe efficace. Voilà, c'est pas simplement un mystère, quelque chose qui nous dépasse infiniment, qui touche à Dieu et qui nous dépasse a fortiori. Voilà, mais quelque chose d'efficace, voyez, un geste et une parole efficace. Donc, ayant fait déjà, même si c'est de manière sacramentelle, le passage de la mort à la vie avec le Christ. Cela dit, si le baptême lave du péché originel et retourne vers Dieu, je reprends retourne au sens de tshuva, hein, comme Philippe nous en a parlé la fois dernière, il reste en l'homme une faiblesse, une inclination au péché. Malgré le baptême, c'est une évidence, les chrétiens continuent de faire l'expérience du péché. Voilà. Et donc le carême est un temps qu'il aurait proposé, un temps favorable pour entrer de manière explicite et résolue dans le combat spirituel, qui est un combat contre le péché, et ainsi se préparer à renouveler à Pâques l'engagement du baptême, c'est-à-dire suivre le Christ, bien évidemment. Le combat spirituel est une donnée essentielle de la suite du Christ à plusieurs reprises. Par exemple, Matthieu le cite deux fois, au chapitre 5 et au chapitre 18. Au chapitre 5, qui est le discours, vous le savez, sur la montagne, qui est un peu le programme, hein, qu'il se propose d'accomplir. Vous avez, si ta main t'entraîne à pécher, coupe-la. Si ton œil, ton pied t'entraîne à pécher, coupe-le. Si ton œil t'entraîne à pécher, coupe-le. Vous voyez, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'il est même provocateur dans une société juive où, je dirais, le manque d'un pied, d'une main ou d'un œil, vous voyez, est une tare permanente et de ce fait, vous voyez, exclu de la pratique cultuelle, de la pratique dans le temple. Voilà. Et au contraire, vous voyez, ça peut, dans la perspective de Jésus, même c'est ce qui apparaît comme une tare pourrait être au contraire pour lui le signe d'un combat contre le péché. Voilà. Donc ça, c'est cité par Matthieu, c'est cité par Marc, c'est cité voilà, dans différents endroits de l'Évangile. Hein. Donc le combat spirituel est une donnée essentielle de la suite du Christ, parce que d'une certaine manière, c'est la vie du Christ, le combat spirituel. On le voit en permanence en train de combattre le diable, Satan, voilà, dans l'esprit, et le moyen... Le combat spirituel est le moyen par lequel sa victoire peut se déployer dans nos vies. C'est là qu'on peut revenir aux 40 jours au désert que Jésus a vécu. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui sont allés à la messe, les chrétiens qui sont allés à la messe ce dimanche, ils vont entendre dire le même évangile. Hein, c'est l'évangile de l'esprit qui pousse Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc je vous lis cet évangile. C'est au chapitre 4 de Matthieu, enfin pour cette année, versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Comme j'ai dit dans mon homélie, moi j'aurais eu faim dès le premier ou le deuxième jour. Hein. Voilà. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voilà. Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez, cette... Ce combat qui est en réalité une opposition, vous voyez, à une tentation, une opposition de la parole de Dieu, c'est la parole que l'on oppose à une tentation. Et une parole qui est une parole nourrissante. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, elle le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges » et... C'est une autre citation, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre, on connaît le psaume 90, je crois. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà, toujours cette opposition de parole à parole. Cette fois-ci, vous voyez, c'est intéressant parce que vous voyez le diable qui est capable de discuter sur la base de la parole de Dieu. Intéressant parce que la parole, il faut pas la lire selon en dehors de l'esprit selon lequel elle a été dite. Voilà, sinon, on fait comme, je dirais, le tentateur initial, le serpent qui arrive. Alors Dieu vous a dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Ce qui est logique. Voilà, hein, vous le savez. Puisque quand on retire un arbre de l'ensemble de tous les arbres, eh bien, on n'a plus l'ensemble de tous les arbres. Donc le Satan, d'une certaine manière, ou le serpent, a tout à fait raison logiquement de dire cela. Mais il n'a pas tout à fait soufflé le même esprit. Il a soupçonné, voilà, introduit un soupçon en tout cas. Jésus lui déclara, donc tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène ensuite sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, tout cela je te le donnerai si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. Vous voyez, petite différence, il n'y a pas si tu es fils de Dieu. Hein, c'est intéressant pour dire ce que c'est qu'une tentation. Vous voyez, ça touche vraiment à la racine de notre être, à notre identité profonde, à notre lien précisément à Dieu. Voilà. Et d'une certaine manière, s'il n'y a plus cette clause ou cette subordonnée, si tu es le Fils de Dieu, hein, celui qui parle se révèle davantage, et d'où la réponse de Jésus, arrière Satan. Voilà, Satan, en hébreu, c'est celui qui accuse. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. C'est un étrange épisode, hein. Déjà la première phrase peut un peu nous surprendre. L'esprit qui conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Voilà. Est-ce que l'esprit, entendez l'esprit de Dieu, a quelque chose à voir avec le diable, celui qui divise, Satan, celui qui accuse, voilà. En réalité, l'esprit ne fait pas que conduire. Il accompagne et s'atteste dans la capacité qu'a Jésus précisément de résister au tentateur. Et on le conduit pour faire d'une certaine manière l'expérience, alors que ce soit pour Jésus ou plutôt à destination de ceux qui lisent l'évangile, pour comprendre qu'avec l'esprit, ils ont la capacité de résister au tentateur. Voilà le but de l'évangile. L'esprit est donné pour le combat, c'est d'ailleurs pas une expérience, mais en tout cas... une donnée que l'on retrouve bien sûr dans la Bible. Par exemple, je peux faire référence à David. Quand David est choisi par Dieu pour être roi, il est oint par Samuel, et on nous dit l'esprit s'attacha à David à partir de ce moment-là. Et l'épisode d'après, bon, David va rentrer au service de Saül, il va lui calmer ses humeurs, en particulier en lui chantant des chants avec sa harpe, mais surtout l'épisode d'après, c'est le combat contre Goliath. Donc vous voyez, vous avez un lien qui est établi déjà dans la Bible, hein, entre l'esprit qui est donné et le combat qui suit, hein, et grâce auquel l'esprit, David va pouvoir combattre avec les armes de Dieu, c'est-à-dire la confiance fondamentalement qu'il met en Dieu, plutôt qu'avec les armes que lui proposent Saül d'ailleurs et David et Goliath, c'est-à-dire les armes du guerrier. Mais on voit bien que la guerre est en quelque sorte, je dirais pas qu'elle est étrangère à Dieu. Étant une réalité humaine, on voit bien que Dieu y entre aussi. Mais en tout cas, la conception que Goliath et Saül d'une certaine manière en ont est étrangère à Dieu. Donc voilà. Dont l'esprit, combat qui suit, c'est une donnée que l'on a dans la Bible et que l'on retrouve en particulier dès le début de l'évangile. Cet épisode des tentations, dans le genre littéraire qui lui est propre, je veux dire par là qu'il y a un côté symbolique, hein, qui est donné, a pour but non seulement de signifier la victoire de Jésus en raison de l'Esprit de Dieu sur toutes les formes de tentation que lui oppose le diable, mais aussi dans la perspective de la passion d'annoncer la victoire de Jésus sur la mort conçue comme l'œuvre du diable. Alors, ce sont des livres qui sont dans la Bible chrétienne et qui sont pas dans la Bible juive, hein. C'est le livre de la Sagesse, par exemple. Sagesse est un livre qui a été écrit... La Sagesse est un livre qui est vraisemblablement du 1er siècle avant notre ère, voire du 1er siècle de notre ère, voilà, mais qui est écrit directement en grec. Et c'est une des caractéristiques de la Bible juive de ne retenir parmi les livres canoniques que des livres écrits en hébreu. Si on n'a pas un original hébraïque, et surtout, et également, si on ne peut pas rattacher cet original à une grande personnalité de la tradition juive, eh bien, le livre n'est pas introduit dans le canon juif. Et voilà. Mais dans une Bible chrétienne, vous trouvez donc... ça ne veut pas dire que ces textes ne sont pas connus, attention, hein. Si on lit dans le Talmud, vous avez à plusieurs reprises des références, voyez, des écrits, comme on dit, des écrits qui peuvent être qualifiés d'intertestamentaires, voilà, entre les deux testaments. Je lis par exemple la Sagesse au chapitre 1 et 2. Oui, car Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Oui, il a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Ainsi, par exemple, Saint-Luc termine le récit des tentations. Ayant épuisé toute forme de tentation, toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de lui pour revenir au temps marqué, et ce temps marqué, c'est celui de la passion. Donc, vous voyez, que l'on fasse référence pour le temps du carême aux 40 jours que Jésus a passé au désert, sachant que le carême vise le mystère pascal, et en particulier la passion et la mort de Jésus, c'est pas très étonnant, parce que déjà, c'est cet enjeu qui est là, même s'il va s'écouler entre, théoriquement, dans l'évangile, il va s'écouler entre les tentations de Jésus et la passion 3 ans. Voilà. Jésus parlera souvent du diable au moment de la passion, ce sera pour exprimer la déchéance de son pouvoir. Le prince de ce monde vient, contre moi il ne peut rien, je cite l'évangile de Jean au chapitre 14, ou encore le prince de ce monde est jeté bas, toujours l'évangile de Jean au chapitre 12. Entrer dans le combat spirituel pour les chrétiens, c'est donc reprendre conscience de l'esprit qui nous unit au Christ, que cet esprit nous rend fort contre les tentations, et le tentateur notamment, même si le discernement de l'influence et de l'action du tentateur sur nous reste un mystère. Il n'y a qu'à voir combien la reconnaissance du péché chez les chrétiens, je pense que chez tout le monde, mais je le dis en particulier pour les chrétiens dont je suis, est difficile. Non seulement dans l'identification du péché, qu'est-ce qui est véritablement péché, ou quelle est la source. Vous savez, si vous voulez guérir de quelque chose, il faut toujours aller jusqu'à la source, c'est pas la peine de soigner les symptômes. Voilà. Non seulement dans l'identification, mais aussi dans le regret et la décision de ne plus recommencer. Voilà. Le regret, c'est difficile. Hein. Parce que faire le péché, si on l'a commis, c'est parce que ça nous a fait du bien. Donc, vous voyez, c'est très difficile le péché parce qu'il altère, vous voyez, la frontière entre le bien et le mal. La loi est là précisément pour nous dire où se tient cette limite. Voilà. Mais le péché, à partir du moment où il est accompli, vous voyez, altère notre capacité de voir le bien et le mal, ou en tout cas où passe la frontière à partir du moment où en agissant en péchant, c'est-à-dire en agissant mal, nous l'avons fait parce que sous raison de bien, parce que ça nous a du bien. Ça m'a fait du bien de donner une claque à mon voisin parce que voilà, ça, il m'énervait. J'étais en colère, je suis allé jusqu'à lui le gifler. Bon, c'est pour donner un exemple tout simple. Hein. Voilà. Le jeûne n'est pas le seul moyen du compas spirituel. Les œuvres de miséricorde et notamment le partage et la prière. Pour les chrétiens, on entend le mercredi des cendres précisément un certain nombre de. Enfin, ces trois propositions. Hein, l'aumône, la prière, le jeûne, dans cet ordre, hein, qui sont cités d'après l'évangile de Matthieu. Alors bien sûr, en insistant sur la discrétion, hein, dans la manière d'agir. Hein, il ne s'agit pas de se faire valoir. Quel est le but, vous voyez, de ces œuvres de miséricorde? Hein, ces œuvres de miséricorde donc sont précieuses pour acquérir le discernement. Vous voyez, ce sont comme des exercices qui nous permettent de mieux voir là où, puisque le péché est difficile à voir. Hein, là où nous avons des difficultés. Hein, le jeûne ne nous est pas simple, surtout si nous l'entendons dans la dimension spirituelle que j'indiquais tout à l'heure, ni d'ailleurs le partage, ou l'aumône si vous préférez, ni non plus la prière. Je veux dire, c'est pas parce que les chrétiens entendent ces recommandations de Jésus au début du carême que nécessairement ils vont se jeter à corps perdu, ou alors s'ils se jettent à corps perdu, qu'ils vont tenir leur décision, vous voyez, jusqu'au bout du carême. Il va falloir qu'ils les reprennent. Voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes du carême? Je vous ai distribué une feuille, hein, sur laquelle vous avez les 5 dimanches de carême. Le 6e dimanche est déjà fait basculer dans la semaine sainte, hein. C'est le dimanche des rameaux. Le dimanche où on célèbre l'entrée triomphale, oui, de Jésus à Jérusalem. Et ces 5 dimanches, vous voyez, sont pris de cette année, mais en même temps, c'est-à-dire celle de Matthieu, hein, Matthieu, enfin, nous avons cette année, donc, si je prends simplement l'évangile, la colonne de droite, vous avez donc les tentations du Christ, hein, vous avez la transfiguration, qui est un moment caractéristique, vous voyez, du carême. Le but de la transfiguration, c'est en particulier de conforter ou de confirmer, vous voyez, que Dieu vienne confirmer en quelque sorte la vérité de l'engagement du Christ, hein, c'est-à-dire l'annonce qu'il vient de faire, qu'il lui faut monter à Jérusalem pour y souffrir la passion, mourir, le troisième jour ressusciter. Voilà. Et de ce projet que Jésus se donne et qu'il explicite à ses disciples, vous savez comment réagissent ses disciples, je veux dire, on n'a pas envie de suivre un maître qui va au casse-pipe. Voilà. Ben, c'est pas simplement qu'on n'a pas envie de suivre un maître qui va au casse-pipe. C'est tout simplement que Jésus dit le Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem pour y souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Comment les autorités de la nation, les autorités juives, peuvent-elles rejeter celui que les disciples considèrent à ce moment-là comme le Christ? Donc il y a une espèce de, vous voyez, de choc, qui va faire que Pierre va s'interposer au risque pour lui d'entendre des paroles extrêmement fermes de la part de Jésus, c'est-à-dire passe derrière moi Satan, hein, d'être rendu analogue, enfin comparable, ou en tout cas que l'esprit selon lequel il parle n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Satan. Bon, la transfiguration, donc la confirmation par Dieu que le projet que Jésus se fixe de monter à Jérusalem pour y souffrir la passion et le troisième jour ressuscité est effectivement un projet de Dieu. La nécessité, vous voyez, que Jésus pointe, en particulier dans la première annonce de la Passion, et qui est comme confirmée, je dirais, par les signes, voilà, cette transfiguration, Moïse, Élie, enfin, vous avez, ils sont tous là, hein, jusqu'à Dieu, hein, qui vient dire, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez, c'est pas une nécessité logique, c'est pas une nécessité, c'est une, elle procède d'une relecture de l'écriture, de la Bible, dans la totalité, je dirais, de la Bible, et d'une interprétation personnelle, c'est-à-dire un discernement dans ces paroles qui sont, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez bien compte, qui sont d'une diversité extrême, elle procède, vous voyez, d'une interprétation que Jésus fait, voilà, pour que le, enfin, et d'un chemin qu'il reconnaît comme le sien propre. Ensuite, les trois dimanches, sont les trois évangiles des dimanches qui suivent sont tous tirés de Saint Jean. Ça, c'est une caractéristique de ce qu'on appelle l'année A. L'année A étant l'année de Matthieu, l'année B, celle de Marc, l'année C, celle de Luc. Mais c'est aussi une caractéristique, vous voyez, de très ancienne. Voilà, le carême va s'organiser autour de ces trois grands évangiles, en particulier parce qu'il va être associé à la démarche catéchuménale. Alors un catéchumène, c'est quelqu'un qui se prépare au baptême, voilà, et qui, dans le temps du carême, aujourd'hui en tout cas, qui précède Pâques, ou enfin comment dire, et qui va être baptisé à Pâques, voilà, pendant la veillée de Pâques. C'est assez, même s'il y avoir des hésitations, enfin, même s'il y avoir une diversité plutôt là-dessus, assez vite, le baptême, en tout cas d'adulte, va trouver place lors de la veillée pascale. Voilà, tout simplement parce qu'on y célèbre la mort et la résurrection du Christ, et que si on suit saint Paul, vous voyez, c'est le sens précisément du baptême. Donc le choix de baptiser lors de la veillée pascale, du samedi, ce qu'on appelle le samedi saint au dimanche, hein, c'est un choix qui est très ancien. Et donc les catéchumènes vont se préparer de manière plus particulière, vous voyez, pendant tout le temps du carême, de telle sorte que à partir du IVe siècle, hein, même si il va y avoir, ça va évoluer dans le temps, il pourrait y avoir séparation entre les deux, à partir du IVe siècle, hein, les chrétiens seront tous invités en quelque sorte à voir dans le cheminement catéchuménal comme un cheminement personnel. Bon, ils sont déjà baptisés, ils vont pas être rebaptisé, on ne baptise qu'une seule fois, on n'est pas comme James Bond, hein. On ne meurt pas plusieurs fois, on ne meurt qu'une seule fois, voilà, donc c'est unique, et le baptême est aussi unique, voilà, on meurt pour ressusciter, voilà. Bien sûr, c'est sacramentel, donc autrement dit, la mort viendra dans notre vie, mais c'est pas une deuxième mort, d'une certaine manière, le passage a déjà été fait, et dans la mesure où on est entré dans le combat spirituel avec Jésus, on peut espérer, en tout cas, que au moment de notre mort, c'est vers la résurrection du Christ qu'on va être orienté. Donc, vous avez donc ces trois dimanches, en particulier centrés sur la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Trois dimanches, vous voyez, qui nous présentent des personnages, des situations un peu emblématiques, en quelque sorte. La Samaritaine, qui est-elle? C'est une femme qui, dans l'histoire personnelle, la vie amoureuse est compliquée. Elle s'est mariée 5 fois et le 6e avec lequel elle vit n'est pas son mari. Est-ce qu'il y a une issue pour elle? Est-ce qu'il y a un avenir pour elle? Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça touche à la question des noces, et je vous ai dit tout à l'heure, les noces sont une image, hein, en particulier de l'alliance que Dieu veut sceller avec Israël. Voilà. Alors, la Samaritaine, c'est pas tout à fait une Israélite. C'est même considéré comme une étrangère entre les Juifs et les Samaritains. Jean commence ainsi son évangile de la Samaritaine. Il n'y a pas de relation. Voilà. Ça dit aussi, si vous voulez, que dans l'esprit de Jésus, cette alliance est appelée à s'ouvrir. Voilà. En particulier, à des gens qui ne sont pas Juifs. Voilà. Même si les Samaritaines, lointainement, voyez, elle peut être liée au monde juif. Voilà. Nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer Dieu. Vous vous dites que c'est à Jérusalem. Voilà, hein, on voit bien qu'il y a une différence, mais au point de départ, il y a une origine commune. Donc voilà, les noces, hein, ça évoque l'alliance, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la proposition que Jésus va lui faire, c'est l'adoration du Père en esprit et en vérité. Et ça, c'est une caractéristique du carême, vous voyez, c'est de retrouver la dimension paternelle de Dieu, ou en tout cas de se retourner, si on doit se retourner, c'est vers un Dieu Père, voilà, qui est et on va insister à chaque étape, en quelque sorte, du carême. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'aveugle de naissance, par exemple, typiquement, c'est encore une situation tout à fait exemplaire. Hein. S'il se met à voir, c'est une vision qui équivaut en quelque sorte à une nouvelle naissance. On va faire intervenir d'ailleurs ses parents, hein, ceux qui l'ont engendré dans le texte, en disant cette guérison, nous ne pouvons pas l'expliquer. Voilà. Interrogez-le. Là encore, il y a une forme de naissance, c'est-à-dire il y a une perspective sur Dieu qui ajoute, ou plutôt qui est encore concentrée sur la question de la paternité de Dieu. Voilà. Et enfin, bien sûr, la résurrection de Lazare, c'est-à-dire ce Dieu qui a les clés, pas simplement du ventre maternel, hein, mais également la clé du tombeau, voilà, qui a la capacité de susciter la vie, alors même que la mort a fait son œuvre, et qui se révèle ainsi précisément comme père, hein, une paternité, voyez, qui dépasse singulièrement la nôtre. Voilà. Donc ces différentes étapes que les catéchumènes vont suivre, et qui en quelque sorte vont être des étapes pour l'ensemble des chrétiens, étapes qui commencent pour les chrétiens qui connaissent, c'est vraiment une redite, hein, qui commence en particulier par ce qu'on appelle la tradition du credo, on le remet de manière solennelle, la foi chrétienne telle que elle a été exprimée par l'Église, tradition, enfin credo, qu'ils seront amenés solennellement à redire, vous voyez, juste au début de la Semaine Sainte, au moment des rameaux. Et de la même manière, on va leur transmettre, tradition à nouveau, le Notre Père, qui est la prière que Jésus apprend, enfin la manière de prier que Jésus apprend à ses disciples et qu'ils devront de redire de manière solennelle au début de la Semaine Sainte, là encore. Et puis chacun des dimanches, troisième, quatrième et cinquième dimanche, sont tous marqués par ce qu'on appelle des scrutins, hein, non pas une forme d'élection, vous voyez, des personnes qui vont être baptisées selon des qualités qu'ils auraient de manière particulière. C'est pas du tout cela, hein, c'est vraiment dans l'esprit selon lequel parle Jérémie, Dieu qui scrute les cœurs et les reins. Voilà. Autrement dit, la parole de Dieu qui fait son chemin, son travail dans le cœur de l'homme, qui éclaire en particulier ce qui peut y avoir de ténébreux en lui, pour l'inviter précisément à ce combat spirituel. En réalité, ce qu'on appelle des scrutins, ce sont des exorcismes. Hein, j'ai là quelques exemples, par exemple d'un exorcisme, c'est-à-dire au moment de la Samaritaine, voici une des prières que l'on dit. Dieu qui a envoyé ton fils pour qu'il soit notre sauveur, nous te confions ces catéchumènes, ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leur péché. Ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, le tentateur, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leur faute, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut. Voilà. Donc, un scrutin qui va être renouvelé le quatrième et le cinquième dimanche, particularisé en fonction, bien évidemment, de ce qui est ici montré. On va parler, bien sûr, de la lumière, hein, en Jean 9, et donc des ténèbres associées au tentateur, et en Jean 11, de la vie, précisément, qui est ce que Dieu veut donner, le bien que Dieu veut donner, le chemin sur lequel il faut s'engager par rapport à la mort, hein, qui est l'œuvre du diable. Voilà, donc différentes étapes, hein, qui sont celles du catéchumène et qui, en quelque sorte, sont aujourd'hui le bien de tous les chrétiens qui sont invités à retrouver pour pouvoir, le jour de Pâques, renouveler leur engagement baptismal, c'est-à-dire de suivre du Christ. Voilà, j'en ai terminé pour le carême, et j'ai déjà parlé près de 45 minutes. La Semaine Sainte, je vais être plus rapide, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Elle s'ouvre par les rameaux. Alors, la Semaine Sainte, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Alors, elle est attestée, par exemple, au IVe siècle. Enfin, oui, au IVe siècle, hein, la Semaine Sainte. Même si, auparavant, on parlait effectivement de Triduum Pascal, qui est une expression qui a demeuré dans l'Église, les trois jours saints. Voilà. Mais c'est une semaine complète que l'on a mis en place à partir du IVe siècle, avec bien sûr le moment privilégié, c'est à partir du jeudi soir où on refait le dernier repas du Christ, la dernière scène, et de manière solennelle. Le vendredi saint étant le vendredi étant plutôt la célébration de la Passion, c'est la célébration de la Passion, de la mort de Jésus, un jour tout à fait unique dans l'Église. Si aujourd'hui la pratique est de célébrer la messe tous les jours dans l'Église, le vendredi on ne la célèbre pas. Voilà, on fait mémoire de la Passion de Jésus, donc de la mort de Jésus, point barre. Voilà, on peut communier, bien évidemment, les chrétiens le savent, mais on ne célèbre pas la messe ce jour-là, ni d'ailleurs le samedi, qui reste le samedi saint, jusqu'au soir, la nuit de Pâques, hein, puisque le jour de Pâques commence la veille au soir, la nuit de Pâques, où on va célébrer précisément la résurrection du Christ, en parcourant d'une certaine manière toute la Bible, depuis Genèse 1, la création du monde, en passant par des étapes un petit peu essentielles, comme par exemple l'épreuve d'Abraham, ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac, en passant bien sûr par la sortie d'Égypte, Exode 14, en suivant donc un certain nombre de textes qui nous font parcourir toute la Bible, voilà, jusqu'à Romains 6, qui est le chapitre où saint Paul aborde la question du baptême, et bien sûr l'évangile de la résurrection qu'on entend le soir de Pâques. Alors, si la Semaine Sainte a un statut un peu particulier, ça tient aussi en partie à la manière dont elle était les derniers jours de Jésus ont été rapportés dans l'évangile. Un évangile, c'est pas un livre qui est facile à situer, dans la mesure où les lieux peuvent être indiqués, ça se passe à Capharnaüm, ou de manière plus générale, ça se passe en Galilée, ça se passe en Samarie, ça se passe à Jérusalem, etc. C'est vrai, pas toujours. Les temps, il y a très peu d'indications. Saint Luc s'y essaye, par exemple, à la naissance de Jésus, on a lu ça avec un édit de l'empereur Auguste, etc., tandis que un tel était gouverneur de Syrie, qu'un autre était roi de Galilée, etc. Donc on arrive à peu près, vous voyez, à situer le moment de la naissance de Jésus, et partant aussi, on arrive à situer le moment de la Passion et de la résurrection de Jésus. Mais de manière générale, un évangile, c'est un jour, quelque part, Jésus dit. Voilà. Donc autrement dit, il y a une espèce d'abstraction, vous voyez, par rapport, même si c'est très concret, mais il y a une forme d'abstraction par rapport à une localisation ou à une situation dans le temps trop précise. Quand on entre dans le récit de la Passion, en réalité, là, pour le coup, ça devient très précis. Il y a une suite qui se fait, sinon jour après jour, certainement à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Enfin, ce qui est en passant par le Shabbat et puis par le dimanche, le premier jour de la semaine, il y a une suite qui est très précise. De la même manière, il y a une localisation très précise. Vous voyez, il y a un souci de vérité historique, ce qui n'empêche pas les auteurs d'avoir leur propre manière de présenter les choses, donc d'interpréter. Mais néanmoins, vous voyez, ils se soucient de situer les choses aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est alors même que ces évangiles ont leur propre chemin, il peut y avoir trois synoptiques, c'est-à-dire trois évangiles qui se ressemblent, il y a un quatrième qui est un peu à part, quand on arrive au moment de la Passion et la résurrection de Jésus, les récits se font de plus en plus concordants. Voilà. Et sans doute, vous voyez, cette précision temporelle en particulier a été un des éléments, vous voyez, qui ont fait que la Semaine Sainte est devenue une entité dans laquelle on a commencé à respecter, parce qu'on avait tous les jours de quoi précisément, un événement que l'on pouvait célébrer. Voilà. Alors principalement, je vous l'ai dit, l'entrée triomphale de Jésus, le jour des Rameaux, même si ça reste le début de la Semaine Sainte, donc même si on célèbre le triomphe de Jésus, on va lire une Passion. Voilà, on va lire un récit de la Passion de Jésus sans la résurrection. Voilà, on entre quand même dans la Semaine Sainte, on entre dans le mystère de la mort de Jésus, qui reste un mystère fondamentalement. Hein. Voilà. Et il faudra attendre le Jeudi Saint pour retrouver un récit qui est quasiment un récit suivi des évangiles. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour permettre d'abord à Philippe de réagir sur ce que je viens de dire, et puis ensuite, bien sûr, pour vous de poser des questions.
Merci. Merci Michel. Voilà, c'est toujours enrichissant et d'apprendre davantage sur la tradition de nos frères et sœurs. Et ça fait écho aussi dans ma mémoire et dans ma pratique. Et c'est toujours une grâce, c'est vrai, de se rencontrer régulièrement et de s'entendre les uns les autres. Et louange à Dieu, alléluia, pour ces moments de bonheur partagé. D'abord, une idée générale. Parce que le thème, c'est le carême, donc notamment marqué par le jeûne. Je parlais du Shabbat, où je parlais des fêtes. Et je trouvais déjà, par rapport à notre civilisation, qui est une civilisation de l'hyperconsommation et de l'hyperproductivité, je trouvais que nos traditions nous apprenaient un peu de modestie, un peu de retenue. C'est-à-dire un carême, je l'entends aussi comme un moment où on se détache de cette société de consommation. Et je trouvais qu'il y avait un message, même laïque, je dirais, même si on n'a pas la foi, mais une sagesse. Tous les désordres qui existent aujourd'hui sont certainement dus en partie par mauvaise gestion de notre monde. Hein. On parle des problèmes écologiques, voilà, des maladies. On est trop peut-être des apprentis sorciers. On a oublié que Dieu nous a confié un monde et que bon, peut-être on peut le faire fructifier, mais aussi il faut le garder. Et que des leçons qui concernent le jeûne, qui concernent le Shabbat, après on le traduit comme on veut, mais je crois qu'au niveau du message, non seulement il est d'une grande modernité, mais même avant-gardiste, parce que c'est un petit peu nous dire, ben voilà, si vous n'êtes pas capable d'une retenue dans la consommation du monde, si vous n'êtes pas capable d'une retenue dans l'interconnectivité ou productivité, peut-être que ce monde se retournera contre nous. Donc c'est la sagesse de Dieu qui nous interpelle dès le début, et je trouvais que c'était un enseignement extrêmement important et d'une grande modernité. Ça, c'était ma vision un peu générale. Ensuite, je voulais faire quelques petites remarques. J'ai noté beaucoup de choses, peut-être beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais tout poser, mais on verra. Par exemple, le cycle des 3 ans. Hein, le cycle des 3 ans, je voudrais rappeler que entre la Judée et la Babylonie, il y avait une différence de lecture de la Torah. Alors, depuis Ezra, depuis le 5e siècle avant l'ère chrétienne, on lisait la Torah dans les synagogues et on la traduisait. Et la différence qui existait entre les communautés judéennes et les communautés babyloniennes, c'est qu'en Judée, on lisait un cycle de 3 ans. On lisait la Torah en 3 ans. Et certaines communautés libérales aujourd'hui font en 3 ans, par exemple au MJLF, on lit la Torah en 3 ans. Ce qui donne des passages plus courts et c'est moins long pour les fidèles, ça permet au rabbin d'allonger un peu son discours puisqu'on a diminué le temps de lecture de la paracha, de la sidra. Mais en Babylonie, on lisait en un an, et la plupart des communautés orthodoxes, et aussi à Copernic, on lit en un an. Mais peut-être que ce cycle de 3 ans peut trouver aussi, à moins qu'il y ait des raisons plus théologiques, mais sinon, en lien avec la tradition d'Israël, de lire en quelque sorte le livre en 3 ans. Hein. Voilà. Les jeûnes de 2 fois par semaine pourraient être le lundi et le jeudi, où c'était les jours, parce qu'on dit que lorsque Moïse, enfin c'est un midrash, qui dit la chose suivante, que Moïse est monté pour chercher les deuxièmes tables, il est monté un lundi, il est descendu un jeudi, et dans beaucoup de traditions, ça se perd, hein, la tradition du jeûne, peut-être chez les mystiques, chez les kabbalistes encore, ou certaines personnes d'anciennes générations, des séfarades, moi j'ai connu mon vieux rabbin qui faisait ce jeûne du lundi et du jeudi. Voilà, ça pourrait être cette tradition, hein, de jeûner. Alors ça faisait partie aussi de la vie spirituelle, hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle du jeûne, parce qu'il faut savoir, j'ai découvert, mais il y a des jeûnes thérapeutiques aujourd'hui. Il y a même des centres qui proposent de jeûner carrément une semaine avec un verre d'eau, accompagnement médical, etc. Évidemment, c'est pas à visée religieuse ou spirituelle, mais c'est des visées plutôt de détox. Mais je pense qu'il y a quand même une recherche spirituelle. Hein. Donc il y a quelques centres. Parce que je travaillais sur le jeûne et j'ai vu qu'il y avait des centres qui organisaient des jeûnes d'une semaine. Voilà, donc ça veut dire peut-être c'est possible, peut-être 40 jours, là ça paraît. Je voulais aussi parler, est-ce que tu pourrais nous donner le terme en grec? Est-ce qu'il s'agit d'une tentation ou d'une épreuve? J'ai l'habitude de dire que Dieu nous éprouve, hein, et que c'est le mauvais penchant, ou le Satan, ou le diable qui nous tente, mais Dieu ne nous tente pas. Il nous éprouve pour nous élever. La seule fois dans toute la Bible, il y a marqué éprouver, c'est avec Abraham. Donc, c'est pas tenter, mais. Parce que l'épreuve, c'est pour grandir, et la tentation, c'est pour chuter.
Comment on dit tentation en hébreu?
Comment on pourrait dire une tentation? Un pitouille.
Pitouille.
Oui, pitouille, oui. Et alors que
Nissayon.
Nissayon, voilà. Et alors bon,
il faut en grec, c'est le même mot, peirazo.
Et ça veut dire. Et comment on traduit, par exemple, Dieu a éprouvé Abraham? C'est
Pour le coup, je connais pas la traduction grecque de la. J'ai pas le texte grec en tête.
D'accord.
Mais en fait, ça dépend un peu de celui qui tente.
Oui.
La tentation, par exemple, je cite l'apôtre Jacques qui dit la tentation, c'est une épreuve qui va vérifier la qualité de votre foi. Donc, il est même capable d'envisager la tentation comme étant positive.
Oui.
Voilà.
Donc, oui.
Même s'il va rajouter dans sa lettre un peu plus loin, ce n'est jamais Dieu qui tente. Voilà. N'est jamais Dieu qui tente. Voilà. Mais la tentation vient du mauvais. Voilà. Ce qu'il rajoutera.
Parce qu'on voit ça, par exemple, dans le livre de Job, où en quelque sorte, c'est Dieu confie Job au Satan. Il lui dit, bon, vas-y, mais à condition de ne pas toucher sa conscience, quoi, mais d'aller jusqu'au bout de la dépossession totale. Voilà. Bon, ça, c'était, alors, je crois aussi que, historiquement, il y a un glissement du Satan vers le diable. Parce que le mot diable ou diabolos, hein, je crois, n'existe pas du tout dans la Bible. Vraiment, les deux passages où le Satan pourrait avoir un rôle important, c'est en livre de Job, et aussi dans Zacharie, hein, le Satan qui parle au grand prêtre. Mais le terme diable n'est pas mentionné dans toute la Bible, hein, pas seulement dans la Torah, dans toute la Bible. Alors peut-être qu'il y a un glissement ici qui peut provenir peut-être des influences peut-être babyloniennes, où le diable a une plus grande indépendance que peut-être dans le récit par exemple de Job, où le Satan, bien qu'il ait un nom particulier, fait partie des anges, mais simplement c'est le tentateur. Voilà. Donc je voulais dire que la Bible ne connaît pas le terme diabolos, mais à Satan, le Satan, qui se retrouve aussi dans le Coran d'ailleurs, le Chatan. Voilà. Alors ce qui m'intéressait aussi dans cette tentation, c'est que c'est une joute de versets bibliques. Alors je dis pas que ça ressemble à une discussion talmudique, mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus puise dans la Torah, dans les versets de la Bible, les réponses. Et je veux dire, en tant que juif, je suis, comment dire, je me sens encore plus disciple de Jésus dans la mesure où il cite les versets, quoi. Le Satan lui sort un verset du psaume 90 ou 91 sur le découpage, et Jésus répond par un verset. En fait, tous ces versets se trouvent dans la Torah, donc non seulement, bien sûr, Jésus connaît les versets, mais ça devient le moyen de briser le diable. Hein. Donc il y aurait ici, alors dans ma tradition juive, ça me fait penser à des textes du Talmud qui dit que Dieu a créé le mauvais penchant, mais il a créé l'antidote qui est la Torah. Et donc l'étude de la Torah, si le mauvais penchant vient te poursuivre, va dans la maison d'études et va étudier, parce que la Torah est l'antidote. Voilà, donc il y aurait peut-être ici une piste, voilà, une suggestion. Je voulais savoir si au niveau le sacrement avait la même signification dans toutes les obédiences chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques, voilà, s'il y avait des différences majeures, ou si c'était des invariants, on pourrait dire, de la foi. Si tu peux nous éclairer. Aussi, alors une question, je me dis, il faut que je te pose la question, mais on dit que Marc est le premier évangile dont se serait inspiré Matthieu et Luc. Alors la question, c'est pourquoi cette chronologie? Pourquoi Marc n'est pas placé en premier? Est-ce qu'il y a une raison de la chronologie de commencer par Matthieu, Marc, Luc et Jean? Est-ce que ça a été l'objet de discussions en synode ou est-ce que c'est tardivement par une forme de critique des textes qu'on est arrivé à Matthieu et qu'au départ donc quelle est la, est-ce qu'il y a une raison à cet ordre-là aussi de quand est-on passé d'une immersion totale à au versement de l'eau? Est-ce qu'il y a aussi il y a une évolution? Est-ce qu'encore il y a des communautés où on fait des immersions totales, dans ce qu'on appelle la Tevila, hein, comme Jean faisait, voilà. Et aussi, comment jeûne-t-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un équivalent donc de Kippour, hein, 25 heures de jeûne sec, comme on dit? Ou est-ce que c'est, ou alors c'est lié peut-être à la foi des uns et des autres, à la pratique des uns et des autres? Et peut-être un dernier point. Est-ce que il y a un rapport entre le fait que ce soit le vendredi la Passion et que dans la logique du texte biblique la faute de Adam c'est le sixième jour avant le Shabbat. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le Yom HaShishi qui est aussi le jour de la faute et donc en quelque sorte Jésus souffre de la faute d'Adam, Shabbat c'est Shabbat, donc a priori il se passe rien, parce que bon Dieu ne fait rien de Shabbat, il n'envoie même pas la manne, et le dimanche, ça serait le recommencement. Puis je voudrais terminer par moi j'aime bien les lectures midrashiques, alors je voudrais faire un petit midrash sur l'évangile, c'est que aveugle en hébreu, bon, même en considérant que c'était écrit en araméen, l'enseignement de Jésus était en araméen, mais bon, il y a l'araméen et il y a l'hébreu derrière. Et un aveugle en hébreu, ça se dit iver. Alors pour les hébraïsants, ça s'écrit aïn vav resh, iver. Mais si on change les voyelles, parce qu'en hébreu c'est un alphabet sans voyelles, ça peut se lire or. Or, c'est la peau opaque. Et les rabbins font le jeu de mots que la peau de Adam était or, avec le aleph, la lumière, et ensuite, après la faute, ça devient or, ça devient la peau. Et donc, la peau, le or, nous rend iver, c'est les mêmes lettres. Donc, rendre la vue à l'aveugle, c'est, n'est-ce pas aussi le ramener à ce or originel? Bon, c'est une lecture midrashique, mais bon, ça me paraît, enfin, si je peux dire, signifiant. Ça peut s'entendre. Et puis, ah oui, est-ce que Lazare, ça serait Elazar, Elazar, donc, ou est-ce que ça serait son nom, simplement Lazare? Ou est-ce que c'est un peu... ça a été transformé en... Voilà, c'était les quelques... Ah oui, non, aussi une dernière question, pardon. Est-ce que... moi, j'avais entendu que le péché originel était plutôt une conception de saint Augustin. Et... Tu as cité Jean et
surtout Paul. Jean,
Paul, pardon. Voilà l'épître de Paul où tu dis déjà il annonce. Donc est-ce qu'il y a une évolution parce que j'avais cru comprendre que c'était à partir de saint Augustin qu'il y avait cette conception du péché originel. Voilà, bon, ça fait beaucoup de questions.
Oui, surtout que je les ai pas notées, donc il va falloir que tu les redises. Donc, je peux repartir j'ai noté oui, les dernières, hein, et donc je peux partir à l'inverse. Voilà, effectivement, saint Augustin est un des grands penseurs qui va développer la question du péché originel, mais il le fera. Ce que je voulais dire, il le fera à partir de saint Paul, plus que de Genèse 3. La relecture que saint Paul fait déjà de lui-même de Genèse 3. Dans saint Paul, au chapitre 5 de l'épître aux Romains, Paul fait un parallèle entre d'une part Adam et le Christ. En réalité, c'est pas tant pour éclairer l'origine que pour mettre en valeur l'œuvre du Christ. De même que le péché est entré dans le monde par un seul homme et par le péché la mort et que la mort a atteint toute l'humanité, tous les descendants d'Adam, de même... Hein, le Christ, la grâce de Dieu est entrée dans le monde par un homme et qui, en raison de sa solidarité, a pu ainsi apporter le salut à toute l'humanité. Voilà, il y a une espèce de parallèle qui est fait entre Adam, d'une certaine manière, Adam et Jésus qui, d'une certaine manière, par ce parallèle, apparaît comme le nouvel Adam. Voilà. Celui à partir de laquelle, duquel l'humanité peut être régénérée. À partir de ce chapitre de Romains 5, avec une, en particulier un texte qui est assez difficile à traduire en grec, effectivement, il va y avoir un développement, surtout avec saint Augustin, du péché originel, mais c'est aujourd'hui une attestation ou un élément de la foi de l'Église. Voilà. Donc c'est pas propre à un auteur ou à un courant, mais ça a été, c'est désormais un bien commun de toute l'Église. Sachant que j'en ai donné quelques éléments du péché originel. Hein. Le but, c'est toujours de comprendre comment le péché est possible pour l'homme. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il est possible pour l'homme, alors même que l'homme a été créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Autrement dit, de quelqu'un qui ne pêche pas, qui est saint. Parce que ça, voilà.
Donc ça donnerait le lien entre le sixième jour et la passion, ou non?
Alors, je savais pas que Adam avait péché le sixième jour, mais c'est intéressant puisque, en fait, le Shabbat est vraiment le jour de repos de Dieu et c'est, voilà, il y a le repos. Il se trouve que Jésus est mort un vendredi, qu'il a été mis au tombeau et donc pendant le Shabbat, il était au repos en quelque sorte. Et donc, il va y avoir déjà dans le Nouveau Testament une comparaison ou une interprétation, vous voyez, de ce samedi, ce grand samedi où Jésus est au tombeau, comme un repos, hein, que Dieu s'octroie ou que Jésus s'octroie avant d'apparaître ressuscité et qui signifie l'achèvement de son œuvre. Autrement dit, le premier jour de la semaine, c'est le premier jour d'une création nouvelle.
Oui. Disons que, alors dans une lecture juive, ça alimenterait davantage. Parce que il y a un texte du Talmud qui dit Dieu a créé Adam le sixième jour, il a consommé le fruit, le sixième jour il a été renvoyé, tout s'est passé le sixième jour, il n'a pas entendu le Shabbat. Donc ce qui voudrait dire que ce sixième jour c'est la création et c'est la faute. Évidemment c'est pas mentionné dans le texte. Dans le texte on dit que une fois que l'homme est créé, eh bien Dieu fait Shabbat. Et puis le chapitre 2 qui reprend en quelque sorte ce thème de la création de l'homme en deux temps, l'homme et ensuite la femme séparés. Voilà. Donc on parle plus du Shabbat. Donc où se situe le Shabbat? Donc les rabbins ont entendu en fait que tout s'est joué le sixième jour. Et que le Shabbat, c'est... Donc dans le premier chapitre, on a simplement l'ordre des créations, quelque sorte la chronologie, pour fonder la semaine, qui est la semaine biblique, qui va devenir la semaine universelle. Et puis le deuxième chapitre, qui donne plus le détail. Comment masculin et féminin, il les a créés. Donc ça pourrait donner une lecture française.
Oui.
C'est ton discours qui m'a fait penser à ça. Voilà, il y avait aussi l'ordre des
j'ai su la raison, mais je dois avouer mon ignorance maintenant. Marc est effectivement le premier des évangiles, enfin c'est une hypothèse mais qui est la plus vraisemblable. On retrouve quasiment l'essentiel de Marc dans Matthieu, on retrouve d'ailleurs une bonne part de Marc dans Luc aussi. Et on trouve aussi des points communs entre Matthieu et Luc, ce qui a fait supposer, vous voyez, qu'il y avait une autre source, qu'on appelait la source Q, de Quelle en allemand, la source précisément, à partir de laquelle Matthieu et Luc auraient composé l'élogia. Leur propre, voilà, enfin, je sais pas si c'est l'élogia, c'est une source qui est, voilà, qui reste mystérieuse puisqu'on n'en a pas de trace, voilà. Donc Marc est vraisemblablement le premier des évangiles. Est-ce qu'on a mis Matthieu en premier? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que son évangile commence par une généalogie. Et autrement dit, il s'articule mieux avec la Bible qui précède que Marc qui démarre directement par le baptême. Matthieu aussi est un évangile, vous voyez, qui raconte l'enfance de Jésus. Et Matthieu est un évangile qui s'adresse en particulier à des chrétiens d'origine juive. Autrement dit, il va insister en particulier sur l'idée que Jésus vient accomplir les prophéties. Ainsi, dans l'évangile de l'enfance, les deux premiers chapitres de Matthieu, c'est vraiment une espèce de refrain que nous avons, comme il est écrit dans Isaïe le prophète, ou comment il est écrit, etc. Jésus qui descend d'Égypte et qui remonte d'Égypte, d'Égypte j'ai appelé mon fils, on cite Osée, etc. Voilà. Même des choix que font les parents de Jésus au retour de d'Égypte où ils ont passé quelque temps pour échapper à la colère d'Hérode, ils vont s'établir à Nazareth et Matthieu va être même capable en quelque sorte de trouver dans la Bible une origine. Alors il va composer lui-même sa source et puisqu'il dit il s'appela comme il est écrit dans les prophètes, il s'appellera le Nazoréen. Voilà. Mais si on cherche dans les prophètes, on trouve pas grand-chose On trouve éventuellement Nazir, ou plutôt Natsar, Netzer. Et ça, ça peut aider à comprendre ce que Matthieu a dans la tête quand il crée quasiment une citation, vous voyez, dans la Bible. Voilà. Je pense que Matthieu a été mis en premier en raison de son articulation plus facile avec la Bible. Voilà. Non seulement par la généalogie et par le fait qu'il établit une espèce de correspondance entre les oracles prophétiques et le Nouveau Testament. Sachant que la Bible chrétienne, vous le savez, est un peu différente de la Bible juive, puisque dans sa constitution, elle a placé les prophètes, enfin une partie des prophètes, des livres prophétiques, à la fin de la Bible, hein, dans une Bible.
Dans Daniel, par exemple.
Typiquement, oui. Dans une Bible dite chrétienne, vous aurez la Torah, c'est clair, qu'on appelle le Pentateuque, les cinq premiers livres. Vous aurez ensuite les premiers prophètes, voilà, ce qu'on traduit plutôt à l'époque grecque comme les livres historiques, autrement dit Josué, Juge, Samuel, premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, premier livre des rois, deuxième livre des rois, qui racontent une histoire, mais en même temps, c'est pas tant un récit, un procès-verbal d'une histoire, vous voyez, ou un récit historique, c'est davantage des livres prophétiques qui vous disent comment l'aventure d'Israël, précisément dans la terre que Dieu lui a donnée. Ensuite, vous avez, normalement, dans une Bible juive, c'est l'ensemble des prophètes, c'est-à-dire à la fois ce récit historique, et ensuite les prophètes proprement dit, à commencer par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Voilà. Et puis les 12 petits prophètes qui suivent. C'est cet ensemble prophétique, d'oracles prophétiques, vous voyez, a été transporté à la fin de la Bible, d'une Bible chrétienne, en réalité au départ une Bible juive, hein, c'est la Septante, c'est une Bible juive, c'est une traduction grecque de la Bible hébraïque qui a été faite à partir, enfin à l'époque grecque, c'est-à-dire à partir du 3e siècle, voilà, avant notre ère, et qui a été accueillie comme, une nouvelle révélation, en tout cas comme un phénomène littéraire, ça c'est très clair, hein, par les Juifs d'Alexandrie, par des Juifs de la diaspora dont le grec était désormais la langue. Voilà. Mais la Bible chrétienne.
La traduction de la Bible dans une autre langue.
Exactement.
Oui.
Voilà, et c'est devenu en fait cette Bible-là dont le Nouveau Testament s'est inspiré, jusque dans sa constitution, puisque si désormais il n'y a plus trois parties dans la Bible, mais quatre, les trois parties étant Torah, Neviim, les prophètes, et Ktuvim, ça veut dire les écrits, et dans une Bible chrétienne, ou dans la Septante, vous avez Pentateuque, prophètes antérieurs, livres sapientiaux, ce qu'on appelle les Ketuvim, et ensuite les prophètes postérieurs, c'est-à-dire ces grands prophètes, Isaïe, Jérémie, et puis les 12 petits prophètes. De la même manière, dans le Nouveau Testament, on va retrouver les évangiles, on va avoir les actes des apôtres, qui sont en quelque sorte le parallèle de l'histoire, des récits historiques de Josué au deuxième livre des rois, les lettres de Paul qui sont en quelque sorte comme un écho, si vous voulez, des textes de sagesse qui définissent un peu la manière dont les chrétiens doivent se situer dans l'Empire romain, voilà comment la foi peut être vécue au jour le jour, même si pour pouvoir répondre à des questions très simples, il faut d'abord que Paul commence par une exploration, une explicitation du mystère du Christ. Et puis enfin, vous avez correspondant à ce dernier ensemble les prophètes postérieurs, hein, les grands prophètes. Vous aurez l'équivalent de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui essaye qui interroge la fin de l'histoire. Voilà, qui interroge la fin de l'histoire. Quand sera-t-il de la fin? Si la mort de Jésus et la résurrection a fortiori ont changé quelque chose dans l'histoire, comment ça se manifeste à la fin? Voilà.
Oui. D'accord. Et on trouvera Daniel à ce moment-là.
Et Daniel, typiquement, voilà, qui correspond à un livre de sagesse avec des tendances apocalyptiques, qui correspond assez bien à l'Apocalypse. Tu m'avais posé la question du baptême, l'immersion et quelques gouttes. Quelques gouttes suffisent aujourd'hui, comme on dit la publicité. Voilà. Quelquefois, moi j'en rajoute beaucoup. Ça dépend des pratiques.
Ah bon, d'accord.
Moi, j'en mets beaucoup au point que même si la personne n'est pas immergée, elle est trempée jusqu'à la racine. Hein.
Ah d'accord.
Mais par exemple, nous avons une crypte juste en face où il y a un bassin.
Ah oui.
Voilà, dans lequel quand des baptêmes sont célébrés, le prêtre descend avec la personne complètement. Enfin, dans
et le bassin. Et ça se faisait jusqu'à quelle époque au Moyen Âge
Je n'ai pas de connaissance précise de la chose. Baptême par immersion se font toujours. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont été perdus?
C'est pour des raisons pratiques, peut-être.
C'est pour des raisons pratiques, hein. Déjà, quand on descend dans l'eau avec une aube, l'aube se met à flotter. Donc, si on n'a rien en dessous, ça se voit. Voilà.
Oui. D'accord.
Donc, on met des plombs, au bas des aubes pour ça. C'est vraiment des raisons pratiques, comme par exemple, le vin est toujours, enfin, en France, en tout cas, le vin est toujours blanc pour éviter de tacher les nappes. Voilà. Oui, ça évoque pas tellement le sang.
Des fois, pour les mariés aussi. Pourquoi la mariée ne soit pas tachée, on est du vin blanc. Comme ça, on ne voit pas la tache.
Voilà. Et alors, tu parlais de Lazare et El Hazar. Ça vient de la racine Ozer, enfin, oui. Du verbe aide.
Oui.
Ezer.
El Hazar, ça veut dire Dieu m'a aidé.
Dieu m'a aidé, c'est ça, exactement c'est... ça. C'est tout à fait ça. Hein, tout à fait ça. Rendre la vue à l'aveugle, et tu soulignais la question de rendre la vue à l'aveugle.
Non, ça, c'était simplement une espèce de lecture un peu midrashique, mais surtout comment on jeûnait aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des traditions
Il y a des jours plus marqués de jeûne. Par exemple, le mercredi des cendres et le vendredi saint, on dit, c'est un jeûne de, c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Ça veut dire que le jeûne y est plus strict. Voilà, il est plus strict. Maintenant, il y a des tas d'exceptions, à commencer par les enfants ou les personnes qui sont plus âgées, les personnes malades. Voilà, donc il y a toujours la possibilité d'adapter, vous voyez, des consignes extrêmement strictes. Est-ce qu'on jeûne au pain et à l'eau? Ça dépend des personnes, hein. Et comme je disais, quelquefois, c'est pas là l'enjeu. Le combat spirituel, il se situe pas là. Je peux jeûner au pain et à l'eau et passer mon temps sur mon téléphone ou devant la télévision ou fumer mes cigarettes, etc. Voilà, quel est le point sur lequel Dieu m'attend? Voilà. Même si, de fait, on a réservé au seul mercredi des cendres et au vendredi saint, vous voyez, des consignes très strictes de jeûne. Il y a abstinence de viande, abstinence de nourriture, enfin du pain et de l'eau. Je crois que c'est ça. Hein.
Dans les communautés religieuses, par exemple, des moines, des moniales, oui.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Déjà, ils ne mangent pas beaucoup. Alors, il y a des communautés qui ne mangent pas de viande du tout.
Ah oui, ils sont passés.
Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions que tu avais en tête?
Mais les sacrements, est-ce que ça avait,
Ah oui, est-ce que c'est pareil entre catholiques, protestants et orthodoxes? Au fond, je pense que oui. Hein, sacrement vient du grec mysterion, qui évoque en quelque sorte le silence, l'état d'hébétude ou de stupeur dans laquelle se trouve la personne face à quelque chose qu'elle dépasse de manière infinie. Voilà. Et ça donnait en latin sacramentum, hein, qui aujourd'hui a comme sens précis un signe sensible pour une réalité qui ne l'est pas. La réalité, c'est toujours le contact avec Dieu, la rencontre avec Dieu, l'œuvre de Dieu. Hein, mais un signe sensible, ça veut dire qu'on va pouvoir s'attacher à ce que nos sens nous renvoient pour essayer de comprendre la manière dont Dieu agit et ce qu'il fait. Mmh. Voilà. Donc, autrement dit, par exemple, si je plonge quelqu'un dans de l'eau, je vais penser au sens que l'eau a, pas simplement d'un point de vue naturel, mais aussi la manière dont Dieu s'en sert dans la Bible pour essayer de comprendre son œuvre pour celui qui est baptisé. Un sens, signe sensible, je le vois, je l'entends, je peux le toucher et même le goûter.
Et donc, c'est vécu dans les différentes.
Voilà. Pour le baptême, a priori, entre catholiques, protestants et orthodoxes, il n'y a pas de différence. A priori. Bon. Il peut y avoir quelques groupes protestants, pour lesquels la question du baptême sera compliquée. Hein, est-ce que c'est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus est reconnu comme le Christ? Voilà. C'est pas toujours très simple, mais de manière générale, entre chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, il n'y a pas de problème. Moi, si un protestant vient, je ne vais pas le rebaptiser, et veut rentrer dans l'église catholique, je vais pas le rebaptiser. Je considère qu'il est baptisé. Il faudra qu'il soit admis, dans l'église. Donc il y a une reconnaissance de son désir désormais de participer à une communauté catholique. Et sans doute, il faudra que je l'initie à d'autres sacrements, parce que les protestants sont aussi particuliers, qu'ils n'ont pas d'autres sacrements.
Que le baptême.
Mais un orthodoxe, par exemple, pour moi, un orthodoxe, ça a la même foi que moi. C'est-à-dire, le baptême, ensuite la messe, l'eucharistie, ce qu'on appelle la confirmation qui correspond à la bar mitzvah, les autres mariages, par exemple, tout ça, c'est considéré comme des sacrements, aussi bien par les catholiques que pour les protestants. Ensuite, c'est des questions d'appartenance.
Que pour les orthodoxes.
Orthodoxes et catholiques. Ensuite, c'est des questions d'appartenance à l'Église. Voilà. Par exemple, typiquement, si un orthodoxe me demande de participer à la messe, je ne fais aucune difficulté. Alors, s'il y a une église orthodoxe à côté, je lui dis, mais pourquoi vous n'allez pas à l'église orthodoxe? Voilà, c'est très clair. Mais s'il n'y a pas d'église orthodoxe à côté, il est bien sûr apte à participer à la messe, c'est-à-dire aussi à communier. Voilà. D'accord. Ce qu'un protestant, normalement, ne peut pas faire. Mm-hmm. Enfin, il peut faire sous certaines réserves, mais habituellement, il ne peut pas faire. Voilà. Ce que j'ai dit vous convient, pour les chrétiens en tout cas.
Oui, bon, voilà, je voulais. Merci.
Des questions? Oui, ben là, on peut. Il y a aussi une différence entre les calvinistes et les luthériens. Est-ce qu'il y a un calviniste dans la salle? Ou un luthérien, luthérien.
Donc on attendra. Les Ashkénazes et les Séfarades aussi, les différences.
Un jour, je me suis présenté, quand j'ai rencontré Philippe, enfin avant de rencontrer Philippe, je me suis présenté à la synagogue, l'intendant, qui s'appelle Bertrand, oui. M'a accueilli assez chaleureusement, il m'a dit, vous savez, ici, on a un juif, un rabbin séfarade, Philippe, et on a un rabbin ashkénaze, c'est Jonas Jacquelin. Il nous manque un rabbin juif. Est-ce que vous voulez en être? Jésus, manifestement, a pris des libertés par rapport au... Alors, le jeûne, c'est une coutume. Hein. Une coutume qui a pour elle sa qualité, son importance et sa correspondance, comme je disais, à certains événements un peu dramatiques. C'est clair que vous n'allez pas faire bombance quand vous avez perdu quelqu'un. Vous voyez, il y a aussi une correspondance de la pratique ou de voilà avec l'événement que vous devez porter. Le jeûne de Kippour, on voit bien que là encore, hein, ce que Philippe a souligné au tout début de son intervention, c'est-à-dire cette espèce de pas de modération simplement, mais de retrouver un rapport aux choses du monde qui est un rapport juste, hein, tel que Dieu l'a posé. Hein. Il faut peut-être en passer précisément par le manque pour découvrir. Je dirais une nouvelle manière d'être au monde, hein, en quelque sorte. Mais Jésus a pris des libertés par. Alors, même si le jeûne est pratiqué, hein, il le dit. Hein, par exemple, typiquement le mercredi des cendres, on a entendu quand vous jeûnez, hein, faites-le de manière discrète. Voilà. Hein, si vous le faites de manière à être valorisé par les autres, eh ben vous avez reçu votre récompense. Mais si vous le faites de manière que votre Père des cieux vous voit, enfin que ce soit simplement dans l'intimité, la communion avec le Père des cieux, alors dans ce cas-là, il est valable. Voilà. Donc le jeûne est pratiqué, encouragé, c'est un discours qu'il adresse à tous ses disciples, et en même temps on voit bien qu'il a pris quelques distances par rapport au jeûne, puisque dans les trois évangiles, on vient le solliciter en disant « pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» C'est-à-dire, manifestement, ils ont une pratique observée de non-jeûne, alors qu'on attendrait... alors peut-être que les pharisiens sont un petit peu... sont un petit peu distants de Jésus, même si Jésus partage beaucoup d'éléments de proximité avec les pharisiens, mais surtout le disciple de Jean. Et très, très intéressant de voir que même par rapport à Jean, Jésus ne jeûne pas. Il adopte pour ses disciples et pour lui-même, une autre pratique que celle de Jean. Jésus, par exemple, à un moment donné, comme c'est quelqu'un qui se laisse volontiers inviter, qui est manifestement un bon vivant, sera qualifié de glouton et d'ivrogne. Voilà. Alors que Jean, à la différence, on le traitera de démon, parce que précisément, lui, il mange pas, il boit pas. Alors, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un type pareil quand on l'invite à table? Voilà.
Mais Jean aussi, Jean le Baptiste, il mange des sauterelles.
Oui, alors Jean, effectivement, il avait...
des repas.
Ils avaient des repas qui correspondaient au cadre dans lequel ils évoluaient. Dans le désert, on ne trouve pas nécessairement un bon steak. Hein. Donc, il mangeait des sauterelles, voilà. Oui. Sauterelles et du miel. Mais voilà, donc il a pris des distances par rapport à Jean, ce qui étonne les gens, enfin ceux qui l'interrogent, parce que précisément, il y a manifestement, même si une communion d'esprit entre les deux, très étonnante. Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas ?
Enfin, historiquement, ça peut être intéressant, excuse-moi, mais parce que bon, le seul jeûne en fait de la tradition biblique, donc héritage des Hébreux, c'était le Kippour. Bon, là, ça devait être incontournable. Donc, quand par exemple Jésus parle dans le sermon sur la montagne, quand vous jeûnez, faites-le discrètement. Donc, comment concrètement cette question a pu être posée? Donc, c'est-à-dire que est-ce que c'est simplement une question de principe, pourquoi vous jeûnez pas? Ou alors, est-ce que il y avait, en quelque sorte, des traditions du jeûne, et on voyait que les disciples, ce jour-là, ben, par exemple, ils mangeaient? C'est-à-dire, comment concrètement, on s'est aperçu, en quelque sorte, qu'ils ne jeûnaient pas? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une sorte de coutume, plus ou moins généralisée dans certains milieux, on s'attendrait à ce qu'ils jeûnent, dans la mesure où ce sont des jeûnes particuliers, privés, non pas justement le jeûne collectif?
Je pense que c'était observable. Donc, autrement dit, dans un environnement où le jeûne était pratiqué, un disciple de Jésus, les disciples, il n'y a jamais un disciple tout seul, hein. Les disciples de Jésus, manifestement, avaient d'autres manières de faire. Oui. Voilà. En même temps, on peut pas dire que les repas avec Jésus étaient très, très riches, hein. Bon, si on a l'exemple du pain et des poissons, qui peut constituer un bon petit déjeuner. Bon, c'est pas tout à fait le petit déjeuner qu'on mangerait ici, mais sans doute pour des habitants de bord du lac, etc., c'est un bon petit déjeuner. On voit bien souvent, vous voyez, juste avant, après cette discussion sur le jeûne, vous avez un épisode où on voit Jésus et ses disciples dans les champs en train de glaner les épis pour manger. Autrement dit, plutôt analogue, vous voyez, une communauté qui socialement est plutôt à peu de moyens, pauvre, puisqu'elle se nourrit précisément de cette part du champ que l'on laisse non glaner pour permettre à des pauvres précisément de manger. Donc oui, quand il était invité, il devait bien manger, et il y a eu des repas qui ont été sans doute excellents, mais c'était quand même pas l'habitude, voilà. Mais il ne jeûnait pas, voilà. Il y avait vraiment une différence. Alors, il y a Kippour, effectivement, et sans doute le Kippour a été pratiqué. En même temps, je vous ai dit, hein, c'est très intéressant de voir comment le Kippour est réutilisé dans le Nouveau Testament. Le Kippour est pour le Nouveau Testament, en tout cas dans l'exigence qu'il constitue, un analogue de la passion, c'est-à-dire je vais me situer dans une même disposition par rapport à Jésus qui meurt en croix que le juif qui célèbre Kippour. Je reconnais mes fautes, hein, ce que je fais devant la croix, je reconnais que je suis pécheur, et cette reconnaissance est en quelque sorte la condition suffisante pour que le pardon soit obtenu.
Curiosité, je voudrais savoir si tu peux m'éclairer sur ça. En fait, Père, vous avez mentionné que la Sainte Cène, le dernier repas de Jésus, ce qu'on fait à chaque messe, c'est justement rappeler ça. On parle déjà, on commence par dire que Jésus a pris les pains après la prière, a pris à la fin du repas, a pris les vins et a fait sa prière. Or, du peu de l'expérience juive que j'ai, on fait plutôt l'inverse. On fait déjà la bracha, la prière du vin, et ensuite on fait les barotes de la nourriture, du pain, d'autres choses. Donc déjà, je voudrais confirmer, ça fait partie de la tradition juive, c'est simplement, je ne sais pas, des gens font d'une façon, d'autres font de l'autre. Et à ces moments-là, sauriez-vous me dire à quel moment on a inversé ça?
Oui, alors moi je vais vous répondre du point de vue du judaïsme. C'est intéressant que, en fait, à l'époque de Jésus, ce qu'on appelle la halakha, la loi juive, n'est pas encore établie. Hein? Nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'écoles d'interprétation, et même avant Jésus, le plus célèbre couple, c'est Hillel et Shammai, qui ont des approches différentes. Par exemple, Shammai, justement, dit on commence par le pain, on finit par le vin, et Hillel dit on commence par le vin et on termine par le pain. Et à l'époque de Jésus, il n'y a pas encore de règles établies. Ce qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire la première traduction par écrit des les commentaires oraux, ce qu'on appelle la Torah orale, en fait ce sont les commentaires des rabbins, va être rédigé entre 200 et 220. Donc, et même quand on fait un peu de Mishnah, on s'aperçoit qu'il y a des discussions. Jusqu'à quelle heure, à partir de quelle heure on peut réciter la prière du soir, jusqu'à quelle heure, etc. Et on voit qu'il y a différentes écoles. Et c'est très tardivement que, pour unifier la communauté juive, parce que c'était l'exil, les juifs étaient répartis maintenant dans l'Empire romain, qu'on a en effet, par exemple quand on fait le kiddush le vendredi soir, ou bien le kiddush, c'est-à-dire la sanctification du jour du Shabbat ou de Pessah, on commence par le vin, ensuite si c'est Pessah, on va manger les matzot, mais il faut pas oublier aussi qu'à la fin du repas, quand il y avait un repas avec le pain, on terminait aussi par le vin. Donc, par exemple, le seder, ce qu'on appelle le seder aujourd'hui, dont je parlerai la prochaine fois pour Pessah, commence par la sanctification du jour sur le vin. Il y a la cérémonie, on va manger la matza, le pain, donc le pain azim, et on va terminer le repas par le vin. Alors, il est possible qu'à l'époque de Jésus, soit l'évangéliste nous rapporte une partie de ce qui s'est passé, simplement pour souligner le pain et le vin. Mais sachez qu'à cette époque-là, il y avait différentes traditions qui pouvaient exister. Alors, ça permet aussi de comprendre que les débats qui existent d'un point de vue historique même, les historiens qui travaillent sur ces questions, comme Dan Jaffe par exemple, qui fait ou Daniel Marghera dans le monde chrétien, montre finalement qu'on est dans une période du débat. Et que ces discussions qu'il y a entre Jésus et les pharisiens sur le Shabbat, etc., correspondent à des débats internes. Jésus met toujours en avant, enfin me semble-t-il, c'est d'abord la dimension éthique, la relation à l'autre, qui est plus importante que le rituel religieux. De certains points de vue, d'ailleurs, le judaïsme libéral se reconnaîtrait davantage dans Jésus que dans les pharisiens des évangiles, par exemple. Parce que il y a ce côté éthique qui est fondateur, vous voyez. C'est intéressant, à l'époque de Jésus, donc, et de l'évangile, la loi juive telle que on en parle aujourd'hui n'est pas encore établie. Ce sont des écoles d'interprétation.
Commencer par le pain plutôt que par le vin, peut-être parce que les deux sont appartiennent au signe. Hein. On peut pas les séparer. Je peux pas par exemple célébrer la messe simplement avec du pain, et a fortiori célébrer la messe uniquement avec du vin. Donc les deux sont liés. Est-ce que ça tient à la nourriture et en particulier à ce que j'ai lu tout à l'heure, enfin la citation que Jésus donne, hein, l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et le vin aurait plutôt un côté qui ajouterait ou qui développerait la dimension d'alliance, puisqu'il est associé aux noces en particulier, aux épousailles. Mais si je me réfère à un évangile, un des évangiles, Luc a une manière de présenter qui ressemble un petit peu à ce que vous dites. Il va parler donc du dernier repas de Jésus comme un repas pascal. Jésus qui dit: quand il arrive, que l'heure fut venue, il se mit à table, il dit: j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà, car je vous lis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce que s'accomplisse dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, ayant reçu une coupe, il rendit grâce ou l'a béni, il dit: prenez ceci et partagez-vous entre vous, car je le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc la coupe précède. Et ensuite, puis prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous, faites selon mémoire de moi. Donc le pain suit le vin, mais on retrouve ensuite, il fit de même pour la coupe après le repas. Donc on a suivi toutes les bénédictions, vous voyez, qui concernaient le vin dans le repas juif, et on termine par quelque chose d'un petit peu neuf. Il fit de même pour la coupe après le repas, disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Donc on retrouve, vous voyez, cette séquence que Philippe vient d'évoquer, le vin, le pain et à nouveau le vin. Voilà, à la fin. Peut-être que, vous voyez, d'avoir mis le vin en dernier, peut-être est un élément pour souligner la nouveauté. Voilà.
Sur un plan étymologique aussi, l'erem ou l'arma, en araméen, désigne le pain, bien sûr, le pain de blé en général, mais ça peut aussi désigner la nourriture. Donc ça veut dire qu'il mange le pain au sens strict, mais ça peut être aussi le pain. Tu mangeras le pain là sur ton front, c'est pas que du pain forcément. Hein. Mais voilà, donc ça peut aussi signifier le repas. Mais en quelque sorte, il n'y a pas de repas sans pain, donc il y a aussi le pain qui fonde le repas. Peut-être en sous-référence, ouais, dans le psaume 104 ou 103, je sais pas, 104, enfin 104 dans le découpage, voilà. Le pain qui renforce le cœur de l'homme, le vin. Alors aussi, il y a la dimension de la joie dans le,
qui a joué le cœur,
justement, puisqu'il y a les noces aussi. Donc le vin, c'est la joie. Le pain, c'est le nécessaire en quelque sorte. Vous voyez, si on peut pas vivre sans pain, on peut vivre sans vin, mais on peut pas vivre sans pain de certaine manière. Et donc le vin, c'est un plus, donc c'est la joie dans la tradition juive, c'est la joie de Dieu qu'on ajoute à la nourriture, voilà. Yayin Issamar Levavenosh, le vin réjouit le cœur de l'homme, avec modération, mais...
quand Jésus...
Il y avait une question là-haut, voilà.
Dans le texte de dimanche dernier, pour la tentation du désert, on appelle le Satan, on lui donne le nom de d'ange. Or, l'assimilation entre l'ange, c'est plutôt un ange adorateur qu'un ange démon. Je voulais savoir si cette notion d'ange existait dans le judaïsme et si l'ange pouvait être à la fois adorateur et démon à la fois. Ou l'un ou l'autre.
Alors, du point de vue de la Bible, donc j'ai cité le livre de Job où le Satan fait partie de l'ensemble des êtres célestes, mais avec la fonction qui est liée à son nom de Satan, qui tente, peut-être on pourrait faire le jeu de mots, incitateur, Satan, incité, voilà. Mais sinon, le terme de malach, qui veut dire ange ou malachim au pluriel, se trouve mentionné, par exemple, quand Abraham reçoit les trois malachim, donc ce sont les trois anges ou les trois envoyés, qui sont des fois appelés aussi anachim, des hommes, hein, et c'est-à-dire, on pourrait dire aussi à forme humaine, hein, et donc on trouve le terme de malach. Dieu dit à Moïse, j'enverrai mon malach, mon ange devant vous, pour vous montrer le chemin. Donc, les anges apparaissent déjà depuis la Genèse. Alors, des fois, ils ont des noms particuliers aussi. Ils s'appellent pas anges, mais par exemple, les chérubins, les kérouvim. Donc, avec, juste après le renvoi du jardin, et qui portent l'épée flamboyante. Et dans les visions d'Ézéchiel aussi, ou alors Isaïe, les séraphim. Donc le terme malach peut être un terme un peu générique d'être céleste, non corporel, mais qui peuvent avoir un aspect corporel, en tout cas visuel. Voilà. Par exemple, dans le récit de la naissance de Samson, il y a un ange qui annonce, et puis après, il s'en va dans les flammes. Hein. Voilà. Donc, un être... métaphysique, si on peut dire, sans vraiment de corps. Et puis, il y a certains anges qui ont des noms spécifiques. Donc, les séraphins, c'est saraph en hébreu, c'est les brûlants. On parle des hayot, les hayot, voilà, c'est-à-dire les êtres vivants. Donc, aussi les chérubins qui se trouvent sur l'Arche d'Alliance. Vous voyez, là, ils n'ont pas une fonction de communication. Ils sont plutôt là symboliquement pour peut-être représenter le dialogue entre l'homme et Dieu. Enfin, on pourrait trouver beaucoup d'interprétations. Et mais à aucun moment, il n'y a, c'était ma petite remarque de tout à l'heure, que, par exemple, un être angélique qui serait opposé vraiment à Dieu, hein. Sans doute, c'est parce qu'on reste dans les Hébreux sont restés dans une vision très monothéiste, quoi. Même s'il y a un serpent ou un ange, même un Satan, c'est toujours une créature de Dieu. Et on dit que c'est même le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait. Donc, je pense que les Hébreux voulaient vraiment, enfin, à un moment donné, même s'il y a une histoire du monothéisme, hein, mais à un moment donné, on a voulu vraiment garder le monothéisme. Donc, il n'y a pas un ange. Rebelle, si vous voulez. C'est pour ça que je disais dans ma remarque, quand on passe au diable, peut-être on passe à une autre conception, on ajoute quelque chose peut-être.
Je pourrais corriger simplement, c'est que le diable, c'est un terme que on trouve précisément dans la Septante.
Oui.
Autrement dit, cette traduction juive de la Bible hébraïque. Autrement dit, en 3e, 2e siècle, sans doute sous l'influence de la pensée grecque, vous voyez, ce terme va apparaître. C'est celui d'une créature, oui. C'est pas un dieu. C'est pas un dieu qui peut en imposer à Dieu en particulier, ou en tout cas s'opposer à lui. Enfin, son travail reste dans les limites de ce que Dieu lui a fixé. Mais ça, c'est donc une créature. Mais il a un pouvoir, sa fonction est on pourrait dire que sa fonction, c'est de permettre de comprendre comment le mal peut avoir une telle puissance, le mal habituellement est fait par des créatures telles que nous sommes, comment, je dirais, arrive-t-on à un tel dégât dans la création de Dieu? Si nous additionnons tout ce que nous faisons de mauvais, ça ne suffirait pas à rendre compte, si vous voulez, de ce mystère.
Oui, alors après, bon, là je reste dans la Bible, mais après, c'est vrai que dans le Talmud, le Midrash, il y a les anges déchus, par exemple. Mais ça, c'est tardif, ça. Hein, c'est-à-dire, historiquement, si on se met sur un plan de chronologie, ces passages un peu énigmatiques qui précèdent le déluge, les Néphilim, les tombants, les fils de Elohim qui rencontrent les filles de l'homme, ça reste assez énigmatique. Est-ce que ça fait référence à des mythes anciens? Oui, alors à ce moment-là, le Talmud va dire qu'il y a des anges déchus, par exemple. Azaël, Uza et Azaël, je vais citer par exemple un Midrash. Voilà, on t'avait dit, Dieu, de ne pas créer l'homme, tu vois, il est incapable de rester tranquille, il va fauter. Alors on va descendre les aider. Et ils descendent, donc ce sont des Néphilim, ils tombent, ils descendent, et rentrant dans le monde de l'homme, ils sont eux-mêmes travaillés par le mauvais penchant. Donc, ils deviennent en quelque sorte les anges déchus. C'est pas vraiment le diable, mais enfin, on s'approche déjà d'une conception d'ange qui s'oppose à Dieu, quoi. Voilà. Mais ça c'est sur le plan de l'histoire, en quelque sorte, de l'angéologie, si on peut dire. Ça vient sans doute aussi de Babylone.
Bon, il est 10h10. Merci d'être venu. Merci à Philippe en particulier de nous avoir éclairé sur la tradition juive.
Et on se voit donc
le 30 mars. 30 mars pour, je pense que c'est
ce sera Pessah.
Ce sera Pessah.
Pessah, la fête de Pâques. Voilà. Merci. Voilà.